Bonjour et bienvenue sur Radio Muge. Nous sommes toujours en couverture du festival de Jazz à 7, donc. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir Cam Mélien.
Bonjour
Cam.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur Radio Muge.
Et merci beaucoup. Merci de me recevoir.
Alors merci, on est content de te recevoir. Alors moi, déjà, ma première question, c'est, tu es contrebassiste.
Ouais.
Déjà, comment on choisit la contrebasse? Parce que moi, j'avais un ami qui a fait l'école de jazz de Salon, tu sais, de France. Et à l'époque, il me disait, il rentrait le soir chez lui, il ne pouvait plus même prendre une assiette dans les mains. Et c'est pas pratique.
Ouais, ouais, je comprends.
À déplacer, ouais, ouais. C'est un instrument phénoménal. Mais comment on choisit cet instrument?
Chacun porte sa croix, hein, tu sais, c'est un peu...
C'est bien le cas de le dire.
Ben, je sais pas, moi, c'est l'amour de ce son, ce rapport charnel avec l'instrument, peut-être le côté un peu maso aussi, parce que c'est vrai que tu travailles longtemps, c'est dur, c'est... Souvent sur des instruments qui ne sont pas bien réglés au début, quand tu es jeune musicien, ouais, débutant, des instruments qui font un peu mal aux mains, effectivement. Puis petit à petit,
tu as commencé directement à la contrebasse ou d'abord par la basse?
Pas du tout. J'ai commencé par la basse électrique à 14 ans, ouais, avec des potes dans les garages, quoi, toi, enfin, musique rock, rock garage. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à cet instrument beaucoup plus tard. Je suis allé au conservatoire d'Angers, j'habite à Angers, dans l'ouest de la France. J'y suis allé une année, puis j'ai fui le conservatoire, j'ai pas voulu continuer, mais j'avais appris 2-3 bases. Je suis resté autodidacte pendant des années. Et ce n'est qu'il y a une dizaine d'années que je suis retourné au conservatoire pour tout reprendre à zéro.
Ouais, d'accord. Très bien. Alors, ben, du coup, alors moi je connais pas bien, mais tu as joué 20 ans avec le groupe Lojo, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ouais.
Et tu avais commencé par un trio? Sweetback.
Sweetback, ouais, un trio.
Donc d'abord, c'est ça dans la chronologie.
En tout premier, c'est Sweetback, ouais, c'est contrebasse, sax, batterie.
Ouais.
Un trio un peu fou avec un saxophoniste qui joue dans le groupe Zenzile.
D'accord.
Donc utilisait beaucoup de dub, beaucoup d'effets, du sampling en direct. Ouais. Moi, je mettais de la distorsion sur la contrebasse, de la wah-wah, de l'archet saturé avec l'octaveur et tout. Et puis ce groupe a duré des années. On joue encore, mais quand on a le temps, quoi.
Et du coup, après, t'as enchaîné ou c'était un parallèle?
En parallèle, j'ai joué dans Lojo.
Voilà. D'accord. Et Lojo, tu peux nous parler un peu de ce groupe pour les gens qui ne connaissent pas?
Lojo, c'est un collectif qui tourne autour d'un chanteur qui s'appelle Denis Péan.
C'est vieux, ça remonte quand même à quelques...
Ça a à peu près 35 ans, je pense, ce groupe. Il y a à peu près 14 albums. C'est à mi-chemin entre la world, la poésie, la chanson française, des influences nord-africaines aussi. Voilà, c'est avec des musiciens qui sont tous natifs de l'Anjou.
D'accord, ok. Donc c'est groupe local.
C'est un groupe local, et ouais. D'accord. Qui a fait le tour du monde plusieurs fois, mais c'est un groupe local.
Du coup, par rapport à l'album que tu as fait là, donc en solo, donc tu es seul, hein, ça, avec
exactement,
un
looper, ouais.
Ta contrebasse, tu n'utilises que la contrebasse ou aussi la basse à des moments?
Alors, c'est que de la contrebasse sur ce disque-là.
Avec un looper, c'est ça?
J'ai un looper où je m'enregistre souvent, c'est des longues plages. C'est-à-dire que j'aime pas les boucles qui font que 2 mesures. Moi, c'est souvent 16, 32 mesures. Puis j'improvise dessus. C'est un peu le principe du standard, quoi. J'ai 32 mesures, je déploie un thème. Après, sur cette grille d'accords, j'improvise, je rejoue le thème et je termine. Et des fois, je change l'harmonie. Grâce à ce looper, c'est plutôt un ordinateur, ça me permet d'envoyer des effets, de piloter un petit clavier. J'ai un charango aussi, c'est un instrument de l'Amérique centrale, qui a un son très cristallin, ça contraste énormément avec le son de la contrebasse.
Qu'est-ce que c'est exactement comme
instrument ? Charango, c'est un instrument à 5 cordes doublées.
D'accord.
Et c'est un peu la forme du tatou. Je sais pas si.
Ah oui, de l'animal.
Voilà, de l'animal, exactement.
Ok, marrant.
Donc le mien, il est entièrement en bois, il n'est pas avec la carapace.
Ah ben oui, j'ai vu des images où tu as joué.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Ça a des sonorités très marocaines, ça ou...
Non, c'est parce que j'utilise des gammes marocaines.
D'accord, ouais, voilà.
Mais l'instrument lui-même, ça a les sonorités que tu lui donnes, quoi, après, mais ça pourrait faire penser à la mandoline un peu.
Ah ouais. Voilà.
Ouais. D'accord. Et du coup, donc, alors, par rapport à ce que tu fais, c'est très. Enfin, moi, je trouve que c'est très cinégénique.
Ouais, c'est vrai.
C'est très sensoriel, c'est assez... Ouais. Et du coup, je pensais à une phrase d'un critique de jazz qui disait que Miles avait inventé l'espace entre les notes.
Ouais.
Et on ressent un peu ça dans ta musique, je trouve.
Ah, ouais.
Tu mets l'accent sur les absences.
Merci pour la comparaison.
Écoute, on va imaginer. Mais tu vois ce que je veux dire, tu insistes beaucoup sur les silences.
Alors, En fait, déjà ce solo-là, moi je voulais pas faire de solo de contrebasse, vraiment pas. C'était pas dans. Il y a 3 ans et demi, j'accompagnais une amie, une poète, sur un festival en Bretagne. Une poète qui s'appelle Lou Raoul, elle est rennaise. Bon, elle tourne partout, elle est invitée partout, elle écrit beaucoup de poèmes. Et sa maison d'édition, qui s'appelle les éditions Isabelle Sauvage, organisait un festival. Ils invitaient plein de poètes, elle était invitée, et on devait faire une lecture ensemble où je jouais, j'improvisais sur ces textes. Et le programmateur m'a dit, je t'ai réservé un créneau, il n'y a pas de problème, tu fais ton solo de contrebasse, tu vois bien quoi. Je dis, mais moi, j'ai jamais fait ça, gars. Il dit, c'est bon, c'est dans 3 mois, tu vas y arriver. Et du coup, je me suis dit, ça m'a foutu un coup de pied au cul.
C'est ce qui t'a amené à faire.
Et si j'en suis rendu là maintenant, c'est grâce à lui. Il s'appelle Alain Rebourg. Et grâce à lui, j'ai fait ce solo de contrebasse. Quoi. Et pour en revenir à cette question sur les espaces, comme je ne voulais pas me frotter au solo à la ECM, j'adore, hein, tu vois, les Dave Holland, les Larry Grenadier, les Miroslav Itus, c'est formidable. Mais il y a un niveau d'interprétation, de jeu que j'ai pas, et puis j'ai pas envie de me frotter à ce gabarit de.
Oui, c'est des monstres. Monsieur, quand même. Voilà.
Donc je me suis dit, j'ai mes petites musiques dans ma tête, j'ai mes petites histoires, je vais utiliser la contrebasse et sa puissance narrative, les espaces, pour essayer de faire quelque chose et de raconter mon histoire.
Et du coup, donc on en vient à l'album Fantôme.
Ouais, Fantôme Futur.
Fantôme Futur qui a beaucoup d'influence, justement. Tu vois, ce que je te disais, il y a des rythmes marocains,
ouais.
D'Afrique du Nord, d'Amérique centrale, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté ? T'as la bossa, t'as de l'impro.
Ouais, ouais.
Donc comment tu as construit ça, en fait ? C'est un mélange qui est naturel par rapport à ta culture musicale ?
Écoute, c'est toute la musique que j'écoute, c'est tous les voyages que j'ai faits, c'est tous les musiciens que j'ai rencontrés, c'est tout. C'est un peu une synthèse de ces
30 années de musique.
Où je me suis retrouvé seul avec moi-même ou face à moi-même et mes instruments, et me dire, voilà, comment je peux faire pour proposer quelque chose sans aller dans tous les sens. Donc j'ai limité l'instrumentarium aussi, je me suis dit 3 instruments, pas plus. Limiter les superpositions, les couches et les couches, je voulais pas non plus. Et puis voilà, quoi, j'en suis arrivé à ce projet-là.
D'accord. Du coup, est-ce que tu aimes tout ce qui est BO, tu vois, de cinéma italien?
Ouais. Je sais que j'ai toujours, quand je fais de la musique, on me dit souvent que ma musique est très imagée, qu'elle est très expressive et qu'elle est cinématographique. Et il y a d'ailleurs dans l'album un morceau qui s'appelle F-Com qui avait été utilisé pour un documentaire. Un film avec d'une amie qui s'appelle Camille Gallard. Et c'était les prémices de ce morceau-là. J'ai réutilisé ce morceau-là, la ligne de Charango, et puis j'ai fait ce morceau.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire de la musique pour des films ou...
Deux, trois fois. Je t'avoue
que c'est... De la musique à l'image.
Je trouve ça super. Et
c'est notre façon de travailler, non ?
Ouais. C'est notre façon de travailler. Ouais. C'est-à-dire que très rapidement, le problème, c'est que tu es derrière l'ordinateur. Voilà, tu n'es plus avec tes instruments, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de trucs à faire. Beaucoup de synchronisation, beaucoup de...
C'est un métier.
C'est un peu l'écueil de ces trucs-là. C'est que quand tu fais du live et que... même si ma musique est assez simple d'accès, facile d'accès, je veux dire, moi, elle me demande beaucoup de travail et beaucoup de rigueur technique pour la jouer... Pour la jouer comme je veux et comme je l'entends, et du coup je dois travailler mon instrument tous les jours. Et si je m'enferme une semaine plutôt un mois dans un local devant un ordinateur pour faire de la musique de film, bon, c'est un peu...
Bon, après il y a plein de musiciens
qui le font
pour aussi, hein, pour
oui
ça rapporte
quoi, Paul?
Parce que ça rapporte de ouf.
Ça peut être très lucratif. Très lucratif. Pour le moment, j'ai pas eu de proposition assez
lucrative
pour tout poser tous les instruments pendant 2 mois. Quoi. Et l'appel est lancé, hein, après. Quoi.
Alors, du coup, moi, il y a un truc, j'aimerais que tu nous parles. Je sais pas si je me trompe, mais tu as été sideman de Robert Plant, Artie Shep et Wyatt aussi?
Alors, sideman, c'est-à-dire qu'on les a croisés sur la route et on a joué avec eux. Je fais 2 concerts avec Archie Shep. Robert Wyatt, on l'a rencontré plusieurs fois. On a enregistré en studio ensemble. Et Robert Plant, c'était un festival qui était dans le désert. où on a fait un set ensemble, on a joué 45 minutes ensemble.
Ah ouais, c'est classe quand même.
Et il y a un disque qui s'appelle From de la route 66 à Tombouctou.
Ouais.
Et c'est une compile de deux, c'est un double CD. Et le dernier morceau, c'est un morceau enregistré dans le désert où je joue.
Qui était enregistré sur place, sur le, dans le festival.
Sur place, ouais.
Et qu'est-ce que tu peux nous parler de ces hommes un peu?
Eh ben, écoute, c'est.
Est-ce qu'il y en a qui t'a particulièrement marqué des trois?
Bah, Robert Plant, c'était quand même assez exceptionnel de se retrouver comme ça face à un mec. T'as écouté tous ses disques, bah, tu connais tout par cœur et tout, et puis. Il dit juste, bon, ben, on va faire un truc important, on se connaît pas. Si vous voulez pas le faire, c'est maintenant, vous le dites, autrement, on y va. Allez, c'est parti.
Ouais.
Aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Ouais.
Et le mec est cool en plus.
Le mec, il te fait confiance, quoi. Il te donne toute sa confiance, et puis à partir de là, il faut y aller, quoi. Et c'était super, quoi. Mais, je connais très bien son guitariste, qui s'appelle Justin Adams. Je sais pas si je joue encore avec lui, mais en tout cas, c'est un ami proche, et du coup, c'était cool, quoi.
Et Robert Wyatt.
Et Robert Wyatt, c'était plus du studio, des échanges. Il est venu plusieurs fois nous voir en concert en Angleterre. C'est quelqu'un de formidable. Hein,
Moi, je suis un grand fan de son
passion. Et Archie Shepp, ce qui était incroyable, c'est que, quelle que soit la musique, il ne se démonte pas. C'est toujours... C'est incroyable, quoi. C'est formidable, je trouve, Archie Shepp.
Ça doit être impressionnant quand même, non?
Ouais.
T'es pas intimidé quand tu vas commencer les premières notes.
L'amorce de
faire de la musique avec ces gens-là, c'est pas...
C'est toujours intimidant, mais en même temps, ces gens-là aussi génèrent quelque chose de tellement puissant que tu...
Ils t'emmènent.
T'es emmené aussi et que tu sens ce truc-là et que t'as envie de... que le feedback se mette en place. Du coup, c'est des catalyseurs aussi, moteurs.
Et du coup, moi, je voulais te parler aussi d'autre chose, c'est du confinement. Le confinement, en fait.
Ouais, le confinement.
Ça a été quand même un événement mondial qui a amené beaucoup de gens à repenser leur vie.
Ouais.
Tu vois, comment toi, tu l'as vécu artistiquement?
Alors, pour être précis, le confinement, j'avais commencé tout juste le solo.
C'est pour ça que je te demande
ça. J'avais commencé le solo 6 mois avant, tu vois, ce festival en Bretagne. Ah ouais. 4 mois après ce concert en Bretagne, j'ai des amis qui ont une compagnie qui s'appelle la Compagnie Carabosse. C'est de la scénographie à base de flammes sur des friches industrielles ou des grands parcs, qui m'ont dit « Envoie-nous une petite démo, on a un truc à te proposer. » J'ai fait une maquette rapide. On t'emmène en Australie. C'était une semaine avant le confinement en France. Je suis parti en Australie avec eux. J'ai fait 4 soirs de suite dans un parc qui s'appelle l'Adelaide Park, le Royal Botanic Garden. 10 000 personnes par soir où je faisais ma musique. C'était des grandes plages d'improvisation pendant 3 heures. Donc je testais mes morceaux. C'était vraiment. Donc je suis revenu, j'étais vraiment à fond. Je dis, putain, faut continuer. Et là, c'était le confinement. Et je me suis dit, j'ai un truc au moins à la maison, tout seul, qui peut peut-être valoir le coup. C'est le moment de resserrer les boulons un peu sur tout, gérer l'administratif, m'organiser, contacter les gens. J'ai plus de groupe en ce moment, tous les potes sont bloqués à droite à gauche. J'ai ce truc-là sous la main, c'est parti. Et à Angers, il y a une salle qui s'appelle le Shabada. À chaque fois qu'il y avait des petites fenêtres de tir, des petits relâchements sur le confinement, ils me disaient, tiens, si tu veux, il y a le local qui est disponible. Là, il y avait une salle, un studio super équipé. Moi, j'ai pu travailler. Ouais. Comme j'étais tout seul, il n'y avait pas trop de problèmes de distance et tout ça. Donc on me disait, t'es tout seul, c'est bon, vas-y. Et ça a été pour moi assez
décisif.
Assez décisif, parce que ça m'a permis d'être prêt à la fin du confinement et de pouvoir commencer à tourner après.
Alors du coup si je vais te poser une question qui a un peu rapport avec un confinement, mais si tu devais être confiné dans une île déserte, par exemple, tu prendrais quoi comme album?
C'est très dur. Normalement, je la pose à la fin parce qu'elle est compliquée.
Ouais, mais ça marche avec le confinement.
Franchement,
tu arriverais, toi?
Non, moi, je peux pas.
Tu pourrais pas choisir un album que tu pourrais écouter en boucle sans problème.
Non.
Parce que nous, on y a réfléchi du coup hier soir.
Non, moi, je peux pas.
Ouais, ce serait obligatoirement plusieurs. C'est ça?
Ce serait. Ça deviendrait forcément une torture à un moment ou à un autre.
Mais plus généralement, Cam, qu'est-ce que. Toi, en tant qu'auditeur, qu'est-ce qui t'a fait rêver? Quels sont les mecs qui t'ont rendu fou? Qu'est-ce que c'est la musique que tu aimes, les artistes que tu admires le plus?
c'est tellement varié. Tu sais, là, récemment, j'ai vu... j'étais à Jazz sous les pommiers, un festival à Coutances, en Normandie. Et j'ai vu dans une petite abbaye, c'était, donc il y avait une grosse programmation, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de groupes. J'ai vu Dominique Pifarelli, un violoniste, qui jouait avec une contrebassiste italienne. C'est Michi Zanti, son nom de famille et son prénom, je l'ai oublié. Et ça m'a foutu, ça m'a fait pleurer carrément, tellement c'était beau. C'était incroyable. C'était, et j'ai vraiment découvert une musique, c'était des harmonies différentes, ils utilisaient des modes, des gammes, les modes de Messiaen, enfin des trucs, c'était super, super beau. Et là, j'ai pris vraiment une baffe, quoi. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un frisson aussi important, quoi. Et le live, c'est super pour ça, quoi. Parce que tu, et alors après, pour tous les artistes que j'admire, je sais que... moi, j'ai beaucoup écouté Dave Holland. C'est vraiment un super bassiste. J'ai bien aimé tous ses projets.
J'avais la faculté à tenir une ligne de basse pendant.
Je trouve ça génial. J'ai beaucoup écouté. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, franchement, je voudrais pas.
Il y a pas des artistes
qui t'ont écouté du rock aussi manifestement,
qui t'ont vraiment marqué à une époque de ta vie. Tu vois, comme enfin, je sais pas, l'adolescence par exemple, où on a tous eu nos trucs qui nous ont fait dire waouh ouais, putain ça a changé ma vie, cet album a changé ma vie. Je pourrais moi aujourd'hui dire quel album je pourrais emporter sur une île déserte, tu vois, par exemple.
Ah ouais, tu pourrais.
Ouais,
serait quoi?
Bah moi personnellement ce serait un Pink Floyd.
Floyd, OK.
Mais je sais pas encore exactement lequel parce qu'il y en a plusieurs que j'aime.
Moi j'avais dit le White Album ou My Favorite Things de Coltrane parce que je pourrais écouter ce morceau. Super. En boucle, toute la journée, je crois, sans problème.
Après, c'est difficile, c'est clair. Il
y a Lush Live de Coltrane, que je trouve super beau aussi.
Ouais.
Mais il y a tellement de choses.
Non, mais c'est très difficile. Hein. Quand on aime la musique, on aime forcément plein de trucs. Mais
je crois qu'à l'adolescence, il y a Bauhaus qui m'a beaucoup plu. Mm-hmm. Bela Lugosi's Dead, ce morceau. Il m'a tellement inspiré, ce morceau, enfin tellement marqué. Alors, c'est un morceau qu'on entend dans... qu'on entend dans un film qui s'appelle The Hangers avec David Bowie et Catherine Deneuve.
Ouais, je vois.
Et dans la boîte de nuit, à un moment, il y a Bauhaus qui joue, et il joue ce morceau, Bela Lugosi's Dead, avec la batterie qui commence sur un rythme. Et quand je faisais mon solo, je cherchais un rythme pour un morceau, et je me dis, tiens, je vais essayer ce rythme-là.
Tu t'es inspiré de ce morceau.
J'ai essayé ce rythme-là avec un petit écho en claquant sur la contrebasse. Puis moi j'écoutais, je dis bah non, c'est pas ça, ça sonne, c'est en 3 pour 4 mon truc et tout. Et puis du coup, c'est parti sur un autre morceau, mais c'est vraiment la source d'inspiration. Et le morceau s'appelle, enfin sur mon disque, s'appelle Gnawen. Vous pourrez comparer, vous verrez les.
Donc il y a quand même une petite, un petit clin d'œil quoi.
Il y a un clin d'œil à Bauhaus. Ouais.
Et toi, en fait, tu préfères. Tu as toujours joué en groupe en fait.
J'ai toujours joué en groupe.
Comment on passe de...
Bah, comment on passe?
C'est pas la même façon d'appréhender le travail, non?
Comme on peut, quoi. J'ai envie de te dire un peu comme on peut, parce que moi, c'est chaud. Hein. Toute la journée, je suis tout seul. Je prends soit le train, soit la voiture. Je suis tout seul.
Ça demande une rigueur de ouf.
C'est plus triste, en tout cas, au niveau de la tournée.
Ah ouais, c'est moins fun. Enfin, tu vois, y a des moments où tu arrives à avoir des connivences avec des gars que tu rencontres. Peu importe, mais des gens que tu rencontres sur le moment. Mais des fois, bon, tes potes te manquent, t'as envie de sortir une grosse blague.
Et puis t'as envie de partager la scène aussi.
Si tu la sors, personne va rigoler. T'as envie de partager la scène. Oui, c'est ça aussi.
Moi, je sais que je suis très frustré très souvent. Enfin, moi,
et
je suis
la
DJ.
Façon de travailler.
Ça n'a rien à voir, hein, mais je suis DJ et je travaille quasiment tout le temps tout seul, tu vois. Mais j'apprécie énormément, ça m'est arrivé plusieurs fois, de partager la scène avec plusieurs personnes. Et ce sentiment me manque, tu vois, de pas... quand tu fais un carton, de ne pas le partager
avec
quelqu'un.
Ne serait-ce que sortir de scène et dire « Putain, les gars, c'était... »
On a déchiré.
C'était... Ah bah non, bah, je suis tout seul.
Oh, mais je vais me coucher. Mais dans la façon de travailler, c'est différent, sinon.
Tu veux dire...
T'es la seule source d'idées.
Tu veux dire travailler... Bah oui, de toute façon, je suis la seule source... Après...
Ou dans la construction d'un morceau, est-ce que
après,
c'est
différent? Ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même fait pas mal de résidences. Et puis, je ne suis pas non plus fermé aux critiques et quand je travaille avec un sonorisateur ou un éclairagiste, je suis toujours en demande de retour, quoi, de choses. Et puis, en général, des fois, de manière détournée, je pose les questions. Et puis, quand j'ai trois fois de suite la même réponse, je me dis qu'il faut tenir compte de cet avis-là, quoi. Voilà, c'est à peu près ce truc-là.
Ok, ben bah écoute, moi je crois que... Je crois que j'ai plus rien à dire. Non, mais ouais, c'était à peu près tout, parce qu'on va pas non plus te garder 3 heures, vu que tu as quand même des petites choses à faire aujourd'hui.
Et nous aussi.
À quelle heure tu joues à...
Eh bien, je joue à... Je crois que c'est 21... Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 21h ce soir.
D'accord. Ouais, donc il faut rappeler aux auditeurs quand même, tu joues en première partie de Snarky Puppy, qui est quand même une légende.
Ouais.
Même si, bon, malheureusement, l'interview sera diffusée après.
Même si l'interview sera diffusée après.
Mais c'est pour ça que c'est bien de parler un peu de tout. Eh bien, écoute, comme nous, ça nous va, est-ce que tu veux rajouter un truc ou...
Que je suis très content de vous avoir rencontré. C'est cool, cet échange, ça fait plaisir. Et puis, c'est Radio Muge, n'est-ce pas?
Radio Muge, la radio sétoise.
Quand je reviendrai à 7, je me connecterai. D'ailleurs, on peut vous écouter aussi sur
Internet.
Sur Internet aussi.
On est sur le web, en fait.
Ok, super.
Et on vous invite tous aussi à venir écouter la radio. Merci, Cam.
Merci à vous, les gars.
Merci beaucoup.
Salut.
Au revoir.